Amen. Que notre Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin. Lui qui a étendu sa main sur nous, nous l'avions témoigné ce matin. Lui qui nous a gardés durant toute cette semaine, un bien-aimé avait évoqué le cas d'un jeune footballeur qui a perdu la vie. Et c'est en conduisant, nous qui faisons aussi la route assez régulièrement, nous savons toute chose que c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui étend sa main sur nous. Et si nous sommes là pour le louer, pour l'adorer, c'est une grâce qu'il nous accorde ce matin. Je salue mes bien-aimés qui sont au loin, qui nous suivent. Notre partage de ce matin va porter sur un élément, l'un des éléments importants que tout chrétien doit savoir, que tout chrétien ne doit pas oublier. Nous allons parler de l'adoption. Nous savons que Dieu, dans sa grâce, il a manifesté d'abord la justification. Nous qui étions loin de lui, nous qui ne le connaissions même pas, qui le méprisions, dans sa grâce, il nous a visités. Il a donné son Fils, nous le savons. Ce qui a payé le prix pour que nous soyons maintenant vus avec faveur par notre Dieu. Mais il y a un autre élément, bien-aimé, ce qui est l'adoption. C'est quelque chose que l'on oublie. Et si on met cela de côté, nous pouvons être perturbés dans notre marche quotidienne. Parce que quelquefois, nous nous posons la question, mais là, j'appartiens à Dieu. Je marche avec Dieu. Mais je vis presque les mêmes difficultés que les païens. J'ai l'impression d'être seul. Je vis des situations qui me dépassent. Et nous pouvons être perturbés par rapport à tout cela, mais bien-aimés, n'oublions pas une chose, que Dieu, qui t'a fait entrer dans cette famille, est ton Père. Il t'appelle par ton nom, c'est ce que déclare sa parole, il t'appelle par ton nom. Et Romains 8, 28, que nous connaissons très bien, nous savons qu'il est dit que toute chose, c'est bien dit, hein, toute chose, concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et la suite, on nous dit, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Or, nous savons que le dessein de Dieu, c'est avant même que nous entrions dans ce monde bien-aimé. Nous le savons, avant que nous ne soyons là, que nous appartenions à telle ou telle famille. Dieu savait déjà. Et nous lirons des textes tout à l'heure qui vont nous rappeler vraiment le plan parfait, je dis bien le plan parfait de Dieu pour chacun d'entre nous qui nous tenons ici et présents. Pour ne pas que nous soyons perturbés lorsque tout autour de nous s'écroule, lorsque les choses ne fonctionnent pas, les portes sont fermées, nous avons l'impression que rien ne marche. Lorsque nous avons l'impression que j'ai une maladie, ça fait des années, je prie à Dieu, je ne vois rien. J'ai des fardeaux sur ma tête, je crie à Dieu. Je vois que ce fardeau-là, j'ai l'impression que je suis le seul à le porter. Mais bien-aimé, n'oublie pas que celui qui t'a appelé selon son dessein, il est même dit aussi plus loin que c'est avant même la fondation du monde, bien-aimé. C'est avant la fondation du monde et qu'il t'a placé dans cette situation. Nous savons que les choses ne sont pas toujours faciles. Jésus, notre Seigneur, ne nous a pas dit que lorsque nous parvenons à la conversion, la vie serait totalement facile. Il n'a jamais dit ça. Lui qui est venu sur la terre, lui qui était roi, qui est descendu jusqu'à nous pour nous atteindre, nous les humains, nous avions vu combien il a souffert, bien-aimé. Il a souffert de la main des hommes et à un moment donné, rejeté par son Père, celui avec qui il a toujours été. Tout cela pour qui? Pour toi, pour moi, bien-aimé, pour que nous n'oublions pas. L'adoption, bien-aimé, c'est un terme que nous connaissons dans le monde, hein, que ce soit ici en France. Mais je crois que la loi nous parle de deux types d'adoption. Hein. Ceux qui sont dans le milieu social, on parle de l'adoption simple et de l'adoption plénière. L'adoption simple, c'est l'adoption par laquelle, en fait, y a deux individus. Hein. Il y a l'adopté et l'adoptant. En fait, celui qui est adopté, il va garder encore des liens avec sa famille de départ. Et l'adoption plénière, c'est-à-dire qu'il va couper tout lien avec sa famille de départ, l'enfant ou bien la personne, ça peut être aussi des adultes, hein, la personne va prendre l'identité, va prendre le nom de sa nouvelle famille. Et je crois que ce que le Seigneur a voulu faire pour nous, c'est l'adoption plénière. Même si nous appartenons tous à des familles, mais notre Dieu veut que nous appartenions à lui de façon totale. C'est ce qu'il a voulu faire pour nous. Et il sait pourquoi il a mis cela en place. Parce que, bien aimé, nous savons tous, nous qui avons des familles, hein, lorsque tu as un proche qui te rejette, ou soit tu as ton fils ou bien ta fille que tu as mis au monde, qui te rejette. Il dit non, mais je ne veux plus avoir des relations avec toi. Quelle est ta réaction, bien-aimé? Il y a des personnes qui ont vécu cela. Hein. Généralement, on a le cœur qui se déchire. Nous sommes en difficulté. Et quelquefois, tu n'as même pas l'envie de manger. Pourquoi? Parce que l'homme est constitué et conçu de cette façon-là, d'être en relation avec les autres. L'homme a quelque chose à donner et il veut aussi recevoir de la communauté. Nous voyons par exemple les musulmans, nous prenons souvent ce cas-là, les musulmans, on voit comment ils fonctionnent. Que celui qui veut quitter l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Il faut le tuer. Et quelquefois par peur, les personnes, certaines, restent au sein de cette communauté-là pour continuer à voir quoi? À profiter des avantages, à profiter des relations de cette communauté. Et la majorité des musulmans sont comme ça. Et il en est de même dans différents groupes. Mais nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu qui vient pour dominer. Il n'est pas venu pour imposer sa loi. Il est venu manifester l'amour. Lisons, bien aimé, un premier texte qui se trouve dans Exode 4. Pour nous montrer comment notre Dieu, 1 Corinthiens 10, 12 nous dit que tout ce qui a été écrit dans la Bible, hein, c'est pour notre instruction. Exode chapitre 4 à partir du verset 22. L'Éternel, on peut lire à partir du verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laisserait point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Amen. Ce texte qui paraît court, mais je relis le verset 22 et dit ceci, hein. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Il y a vraiment des informations dans ce texte-là. Donc là, il envoie Moïse pour dire à Pharaon que ce peuple-là, Israël, est mon fils, il m'appartient à moi. Mais c'est comme si ça sous-entend que lui, il n'est pas son fils, hein, Pharaon et les autres. Ce peuple-là n'est pas son fils. Mais Dieu ne fait exception de personne. La suite, il nous dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Qu'est-ce que cela signifie aussi? Cela signifie que Dieu ne ferme pas la porte. C'est le premier. Mais d'autres doivent suivre. Et donc, il n'a pas fermé la porte aux Égyptiens. Il n'a pas fermé la porte à tous les autres peuples. Il n'a pas dit, c'est mon unique fils. Il n'a pas dit ça, mon premier-né. Ça veut dire que d'autres vont suivre. Dieu est bon. Il a commencé par ce peuple béni, Israël. Il l'a choisi. Il le dira plus loin que ce n'est pas parce que c'était le plus grand. Non, au contraire, parce que c'est le plus petit. Il l'a choisi. Mais pour démontrer sa grandeur, et il a donné une raison pour laquelle il a choisi ce peuple. Il a dit, non seulement, la deuxième raison, c'est parce qu'il veut accomplir sa promesse envers Abraham, mais la première, c'est parce qu'il aime ce peuple. Amen. C'est parce qu'il aime ce peuple. Bien-aimé, Dieu t'a fait entrer dans sa famille. Dieu t'a adopté. Tu es devenu son fils. Il a mis en place une adoption plénière. C'est-à-dire que tu as été rejeté par ta famille. Tu sais que ce monde-là n'est pas à toi. Tu as été trahi par les groupes auxquels tu appartenais. Dieu t'a pris sous ses ailes. Il a fait de toi ton fils, son fils pardon, et sa fille. Et il te dit aujourd'hui que tu lui appartiens à lui. Quelle merveilleuse promesse, quelle parole. Et je l'ai dit tout à l'heure que si nous oublions la réalité de l'adoption, j'ai commencé par donner des exemples de ce qu'est l'adoption, bien-aimé, pour que nous comprenions pourquoi, ce que Dieu a fait pour nous. En France, pour adopter, généralement, nous le savons, hein, que la démarche est longue. Pour adopter un enfant, la démarche est longue. On va faire des enquêtes sur la personne qui veut adopter. On va voir tes capacités. Est-ce que tu seras en mesure de bien prendre soin de cet enfant-là? Sur ta moralité, on va faire des enquêtes sur toi. Vous savez, il y a plus de 120 000 enfants qui attendent, hein, d'être adoptés, mais généralement, c'est juste 200, un petit nombre. Donc, nous voyons bien que le chemin est difficile. On va faire des enquêtes sur toi. Mais l'inverse aussi est vrai. On va aussi voir l'enfant comment il est, comment il se comporte. Et la tendance est quoi? Généralement, on adopte les enfants qui sont en bas âge. Généralement, les parents font ce choix-là. Ceux qui veulent adopter, ils prennent les enfants en bas âge. Mais nous, nous doutions bien pourquoi. Nous savons qu'un enfant qui est en bas âge est plus facile à... En fait, on peut lui inculquer nos valeurs à nous plus facilement qu'un adulte. Et c'est ce que généralement les personnes font. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait avec nous, bien-aimés? Est-ce qu'il nous a choisis en bas âge, entre guillemets? Non. Nous avions mené notre vie. Et généralement, pour beaucoup d'entre nous, la majorité des chrétiens, ce sont des adultes, bien-aimés. Des personnes qui ont déjà eu des vies avant. Qui ont été vraiment, peut-être fatigués de la vie. Qui ont été vraiment malmenés par la vie. Et ce sont ces personnes-là que Dieu va se manifester à elles, qui va les adopter. Et il nous laisse toujours la liberté. Hein. Nous le savons, hein. Nous n'allons pas lire tout à l'heure avec Israël dans Osée 11. La suite de ce choix-là, plus tard nous savons que Israël, malgré les démonstrations de l'amour de Dieu pour lui, malgré les miracles qu'il a accomplis, Israël a fini par rejeter ce Dieu-là. Mais nous savons une chose. Lorsque nous rejetons Dieu, lui qui nous a appelés, il s'appelle comment? Fidèle et véritable. Nous avions vu des personnes sortir, peut-être des jeunes qui n'ont plus marché dans la foi, dans la maison, qui n'ont pas continué la marche. Mais Dieu, dans sa grâce, a veillé sur eux. Amen. Et autant marqué, il les a réintégrés. Et moi, c'est un petit témoignage que je donne souvent, hein, nous qui avons de l'âge. Je dis souvent, ceux qui sortent peut-être de la communauté, peut-être qui ont été piégés par l'ennemi, que nous, parents, que nous soyons en paix. Parce que Dieu est fidèle. Sa parole déclare qu'il ne se repent pas de ses dons ni de ses appels. Il ne se repent pas. C'est pareil pour Israël. Il a fait de lui son peuple à lui. Israël est allé vers d'autres dieux. Mais nous savons une chose, que la promesse que Dieu a faite dès le départ, il va l'accomplir. Et ceci est valable pour toi, pour moi, pour nous tous qui sommes là. Qui ne s'est pas trompé dans sa marche chrétienne? Nous tous, bien-aimés. Mais Dieu a été fidèle. Et si aujourd'hui, ce matin, nous avons prié, un bien-aimé a donné un sujet, il dit, mais si nous sommes là en train de louer le Seigneur, de chanter avec joie, avec ferveur, parce que c'est lui qui nous tient. Amen. Ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas parce que nous sommes forts. Hein. Ça n'a rien à voir, bien-aimé. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il a donné celui qu'il a le plus cher, Jésus-Christ, son Fils. C'est des choses que nous avons l'habitude d'entendre, bien-aimé, mais n'oublions pas cela. Moi, il m'arrive très souvent de ne pas comprendre Dieu. Bien-aimé, c'est vrai ce que je vous dis. Quelquefois, je ne comprends pas Dieu. L'amour immense qu'il a manifesté pour moi, moi qui suis mauvais, oui, quelquefois il m'arrive d'être mauvais. Dans mon cœur, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Moi-même, je me condamne. Je dis, Dieu, ça, ce n'est pas de toi. Et je rejette. Mais entre-temps, je dis, mais toi seul est le vrai Dieu, est le bon Dieu. Quelquefois, nous contestons. Quelquefois, nous jugeons dans nos cœurs, même sans même dire. Mais le Saint-Esprit nous reprend. Il dit, mais est-ce que tu fais bien ce que tu es en train de dire? Et nous nous repentons tout de suite. Et juste après, nous reconnaissons que Dieu seul est Dieu. Amen. Et à lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Et c'est vraiment merveilleux d'appartenir à ce Dieu-là. Donc, Israël a rejeté son Dieu, mais malgré cela, Dieu lui demeure fidèle. Et nous allons lire, bien-aimés, un deuxième texte, toujours dans, c'est dans Deutéronome. Au sujet d'Israël, toujours Deutéronome, chapitre 7. À partir du verset 6. Qui a dit ceci, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Voici ce que le Seigneur a dit au sujet d'Israël. Et nous pouvons nous reconnaître aussi dans cette situation, bien-aimés. Il a dit, c'est parce qu'il nous aime, qu'il nous a fait sortir du monde. En fait, de la servitude, là où nous étions avant. Juste c'est parce qu'il nous aime. Si tu as choisi, ce n'est pas parce que tu étais le plus intelligent, nous le savons. Ce n'est pas parce que tu as les moyens. Ce n'est pas parce que tu étais fort. Ce n'est pas parce que tu étais vraiment gentil ou bien bon. Loin de là, bien-aimé. Il t'a choisi par amour pour toi. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Nous le disons souvent, hein, que Dieu m'aime. Mais est-ce que nous réalisons la profondeur de l'amour de Dieu pour nous? Est-ce que nous réalisons la profondeur de l'amour de Dieu pour nous? Non seulement il nous aime, mais il fait de nous un peuple. Il fait de nous son héritage. Et nous lirons un peu plus tard qu'en plus de nous avoir justifiés, de nous avoir adoptés, nous fait entrer dans sa maison à lui, il nous a glorifiés, c'est ce que dit Romains 8, 30. Mais aussi, nous avons part à quoi? À l'héritage. Nous savons que l'adoption plénière, bien-aimée, donne droit à l'enfant qui est adopté par cette nouvelle famille-là d'hériter aussi de ses parents, d'hériter totalement, comme les enfants qui sont dans la maison. Et nous sommes devenus cohéritiers avec Jésus-Christ. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour bénéficier de tout cela, bien-aimés? Est-ce que nous nous posons des questions, quelquefois? Posons-nous des questions, bien-aimés. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter toute cette faveur-là de Dieu? Moi qui étais mauvais, adonné à des choses mauvaises, Dieu, autant marqué, m'a arraché, m'a justifié, et me donne l'occasion d'appartenir à une nouvelle famille. Cette famille qui est appelée à vivre l'éternité avec notre Dieu. Réalisons cela pleinement, bien-aimés. Et je vais nous dire pourquoi je nous fais ce rappel-là. Je l'ai dit rapidement en introduction, que nous pouvons, lorsque nous sommes en difficulté, nous pouvons nous poser beaucoup de questions. On peut se dire, mais j'appartiens à celui qui a créé la terre et les cieux. À lui, nous disons souvent, appartiennent l'or et l'argent. C'est lui qui peut donner la santé, il peut réveiller les morts, il peut redonner la vie aux morts, il peut ressusciter les morts. Mais moi, je suis en difficulté. Rappelle-toi, bien-aimé, que Dieu t'a adopté. Il t'a choisi, il a mis son sceau sur toi. On nous dit qu'il nous a scellés du Saint-Esprit, qui est un gage de ce qui nous attend. C'est ce que déclare la Bible, bien-aimé. Ça veut dire que s'il nous a scellés du Saint-Esprit, c'est-à-dire que la part qui nous a été donnée ne sera jamais enlevée. Dieu est fidèle et il nous aime, bien-aimé. Ne sois pas perturbé lorsque les choses ne fonctionnent pas. Tu fais partie de la maison de l'Éternel. Tu fais partie de ce Dieu qui a créé la terre et les cieux. Tu fais partie de celui qui va juger, fais partie de la famille de celui qui va juger le monde. Mais toi, tu ne vas pas passer en jugement. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Ceux qui sont en Jésus-Christ passent de la mort à la vie, mais ils ne viennent pas en jugement. Alors que nous devrons être jugés, bien-aimés. Même si aujourd'hui le Seigneur nous dit que nous devrons être jugés, on va dire oui, c'est logique. Mais nous voyons la grâce qu'il nous a faite. Il a tout effacé, notre passé. Il l'a tout enlevé. Et il nous voit comme il voit son Fils Jésus-Christ, qui fait vraiment la joie de son cœur. Et nous sommes justifiés pleinement. Nous sommes saints par l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lisons un autre texte bien-aimé qui se trouve dans Éphésiens 1. Ce texte fait partie des textes que j'aime beaucoup, bien-aimé. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 4, nous lisons. Bon, verset 3, hein. On dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je recommence. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Amen. Relisons ce texte. Elle dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes. Donc on voit bien tout ici, il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S à toutes. On n'a pas dit toutes les bénédictions. Non, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que lorsque le tout n'est pas accordé, ça veut dire que c'est la plénitude de la chose, bien-aimé. Amen. Ça veut dire que c'est la plénitude. Ça veut dire qu'il nous a tout donné. Nous savons, bien-aimé, que même les anges, il est écrit dans la parole de Dieu que les anges eux-mêmes ne comprennent pas ce que Dieu a fait pour nous. Les anges sont dépassés. Ils se demandent, mais pourquoi Dieu a fait les choses ainsi? D'abord, pour ces personnes pécheresses, et en plus, il a réservé cette période-là pour nous qui sommes là, bien-aimés, pour l'Église. Parce que tout ce qu'il a fait depuis les temps, depuis Adam, avec nos aînés, Abraham, le peuple d'Israël, tout ce qui s'est produit, c'est pour presque la fin des temps pour nous, l'Église. Et les anges ne comprennent pas l'amour de Dieu. Ils ne comprennent pas, ça les dépasse. Et on voit bien ici, j'ai insisté sur ce terme-là, on nous dit « toute bénédiction ». Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir cela gratuitement? En plus de la vie éternelle, je vais posséder les biens de mon Père. Je vais posséder les biens de celui qui m'a sauvé. Est-ce que ce n'est pas merveilleux cela, bien-aimé? Si tu prends conscience de cela, les souffrances du temps présent ne vont pas avoir d'impact sur ta vie. C'est l'objectif, c'est ce que je voudrais nous dire, bien-aimé. Tu as des problèmes, moi aussi j'ai des problèmes. Tu pries pour des choses, tu insistes. Moi aussi j'ai prié, j'insiste pour des choses. Mais le Saint-Esprit, dans sa grâce, me rappelle. Il dit, mais regarde, cher monsieur, cher ami, qui tu es pour celui qui a créé la terre et les cieux. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Il t'a aimé. Il te l'a démontré. Et il continue d'être avec toi. Et lorsque tu n'as plus envie de prier, est-ce que tu n'as pas remarqué que par moments, il t'a redonné un souffle nouveau? N'avons-nous pas vécu cela, bien-aimé? Oui, c'est arrivé à certains d'entre nous. Lorsque tu étais abattu au-dedans de toi, lorsque tu étais dépassé, tu n'avais plus envie de prier, même de méditer la parole de Dieu, Dieu est venu à ton secours. Comme Dieu l'a fait pour son fils Jésus-Christ à Gethsémané, lorsqu'il était dépassé, fatigué, lorsqu'il priait, et il y avait des grumeaux de sang qui sortaient même de son visage. Et il a dit, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père ne lui avait pas répondu. Hein? Dieu n'a pas répondu à notre Seigneur Jésus. Mais nous savons qu'il a envoyé qui? Les anges qui étaient venus le consoler. Les anges sont à notre service, bien-aimé. Lorsque tu ne vois pas, comme le Père, tu ne vois pas la réponse à un problème pour lequel tu intercèdes depuis des années, n'oublie pas qu'il y a un souffle nouveau qui te renouvelle. Et ce souffle nouveau, ça vient de ton Père qui tient ta vie dans ses mains. Amen. Qui tient ta vie dans ses mains. N'oublie pas cela, bien-aimé. Tu fais partie, tu es de la maison de l'Éternel, celui qui a créé la terre et les cieux. Et tu vas posséder avec Jésus-Christ. Tu as été adopté. Tu appartiens à ce Dieu-là. Et ce n'est pas un Dieu dominateur, ce n'est pas un Dieu despote. C'est un Dieu bienveillant, plein de miséricorde, plein de bonté et plein d'amour, bien-aimé. Et nous continuons la lecture au verset 4. Et dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Bien-aimé, même la suite de ce texte, on pourrait la lire, mais nous voyons bien que déjà au verset 5, j'ai insisté sur ce terme, on dit « il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ ». Nous étions dehors. Son plan, c'est de nous faire entrer dans sa maison. Nous qui n'étions pas dignes, dans son plan, il nous a fait entrer. Il nous dit, mais tu m'appartiens. Et en plus de cela, il a dit, tu es saint. Ça dépasse l'entendement, non, bien-aimé? Il dit que tu es saint parce que Jésus-Christ, par son œuvre, t'a rendu saint et beau et belle devant Dieu. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé, d'être devant la face de ce Dieu-là? Et tu ne peux pas te tenir tête baissée, tu dois te tenir la tête élevée, tu vas lever la tête devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a payé le prix pour toi. Et non seulement ça, nous lirons aussi un autre texte qui dit que Dieu nous a donné son esprit. Et son esprit, quel est le but? La principale raison, la première raison pour laquelle Dieu nous a donné son esprit saint, pour que nous réalisions l'adoption. Parce qu'il a dit, il a mis dans nos cœurs son esprit qui nous permet de crier Abba, Père, de l'appeler Père. Donc tu fais partie de cette belle famille-là. Mais malheureusement, quelquefois nous rejetons, bien-aimés. Soit nous oublions ce privilège qui est adossé à l'adoption, mais soit nous méprisons et nous avons tendance à faire comme le peuple d'Israël, à vouloir repartir en Égypte. Nous nous souvenons, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils se plaignaient de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Et Dieu a dit non. Il a en fait traversé le désert. C'est juste pour un temps de souffrance, comme ce que tu vis peut-être maintenant. C'est pour un temps, bien-aimé. Nous savons qu'à la fin, Dieu les a fait entrer dans la terre promise, où coule le lait et le miel. Et Dieu veille. Il permet souvent cette trajectoire-là, c'est ce que Dieu permet dans nos vies. Mais nous, si nous sommes dans cette situation, disons à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Je veux arriver là où tu me mènes. Amen. Demandons cela à Dieu. Si tu es dépassé, si tu n'as plus de force, n'oublie pas que la ressource existe auprès de celui qui se déclare être ton père et qui t'a amené aussi à le reconnaître comme étant ton père. La ressource existe. Crie à lui et il viendra à ton secours. Je relis le verset 5. Il nous dit ceci. Il nous a prédestinés. C'est-à-dire que c'est un plan au départ. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Parce qu'il l'a voulu ainsi, bien-aimé. Il l'a voulu ainsi. Il a voulu te faire grâce. Il a voulu que tu deviennes cohéritier avec son fils. Il l'a voulu ainsi. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Amen. Que Dieu soit loué pour cette immensité, cette grâce immense. Et c'est une parenthèse que je nous fais, hein, au passage. C'est une parenthèse, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, lorsque tu as conscience que Dieu a manifesté un tel amour, a adopté tel, arrête de juger ton frère. Amen. Ne porte pas de jugement. Il y a des choses qui te dépassent. Ne t'engage pas dans cette voie-là. Moi, s'il y a des choses qui me dépassent, moi, je me tais, bien-aimé. Je n'ouvre pas la bouche. N'oublie pas que Dieu aime chacun d'entre nous. Tous ceux qu'il a aimés, tous ceux qui sont sauvés, Dieu les aime d'un amour infini. Et même, c'est la même chose même pour les païens. Hein. Nous avons lu dans le livre d'Exode, Dieu a parlé de premier-né, c'est-à-dire que d'autres viendront. Donc aujourd'hui, ceux qui sont dans les méchancetés, que ce soit les Elon Musk, les grands, ou bien même Macron, si je vous demande quelquefois, on va dire, ah moi, Macron, je ne l'aime pas. Mais peut-être qu'il a son nom inscrit dans le livre de vie. Tu ne sais pas, bien-aimé, tu ne sais pas. Donc des choses qui nous dépassent, ne nous engageons pas, n'ouvrons pas rapidement la bouche. Parce que Dieu aime toutes ces personnes-là comme il nous aime. C'est le même amour. Il ne nous aime pas plus que ces personnes. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Il nous aime tous pareil. Il aime les humains. La Bible déclare qu'il est bon, et il est bon pour les justes et pour les injustes. Il fait pleuvoir en faveur des justes et des injustes. Dieu fait la même chose. La pluie qui tombe, l'agriculteur qui est dans sa campagne, il y a des athées là-bas qui n'aiment pas Dieu. Mais est-ce qu'ils ne profitent pas de la pluie de Dieu? Ah, ils profitent. Dieu, qui est grand et merveilleux, il aurait pu faire en sorte que la pluie, sur son champ, à lui, il n'y ait pas de pluie, mais c'est tout autour qui est la pluie. Oui, c'est possible. Mais Dieu lui fait bénéficier de ses largesses à lui. Donc, ne nous trompons pas dans nos jugements et restons à notre place. Et n'oublions pas la grâce qui nous a été faite. Parce que généralement, le piège dans lequel nous tombons souvent, que lorsque aujourd'hui nous accédons dans cette famille merveilleuse, nous avons tendance à mépriser les personnes qui ne sont pas comme nous. Peut-être à mépriser les musulmans. On dit, mais comment ils n'arrivent pas à comprendre? À mépriser leur religion. Ne méprisons pas, bien-aimés. Restons dans l'amour. Restons dans la grâce, dans la miséricorde. Parce que la Bible déclare que on va te mesurer en fonction de la mesure que tu te sers pour mesurer les autres. Donc, si tu mesures les autres avec dureté, mais Dieu va user de dureté envers toi, bien-aimé. C'est pour cela, faisons attention. Là, c'était juste une parenthèse. Et lisons un autre texte. C'est toujours dans. Nous allons lire dans Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, à partir du verset 12, où on nous parle de la lumière, Jésus-Christ qui est venu dans le monde, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. C'est un texte que nous connaissons. Donc, si tu es aujourd'hui chrétien, chrétienne, ce texte est clair, hein? Ce n'est pas de la volonté d'un humain. Ce n'est pas parce que ton père t'a dit « deviens chrétien » que tu dois... Non, ça n'a rien à voir. On nous dit, c'est clair, hein? C'est dit de la volonté de Dieu, parce qu'il l'a voulu ainsi. Et on nous dit que vous êtes nés de Dieu. Nous avons connu la difficulté de Nicodème, hein, lorsqu'il était venu voir Jésus. Il n'avait pas compris. Mais nous savons aujourd'hui que nous sommes nés de Dieu. Si nous sommes nés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu et nous pouvons bénéficier de tous ces avantages liés à sa maison. Et donc, si nous sommes conscients, Seigneur, bien-aimés, de toutes ces choses-là, qu'est-ce que n'allons pas nous manifester vis-à-vis de ce Dieu-là? Nous allons manifester de la reconnaissance, bien-aimés. Nous allons manifester de la reconnaissance. Et moi, c'est ce que je nous recommande de faire tous les jours de notre vie. Même que ce soit, si ça paraît répétitif, mais dis-le à ton Dieu. Tu dis, mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu t'es intéressé à moi. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as aimé tant. Moi qui ai été mauvais, qui ai fait jouer des sales tours. Tu peux te souvenir de ton passé. Je ne comprends pas, mais je te dis merci. Merci pour ce si grand salut. Et rappelons cela à Dieu. Lisons, bien-aimé, 1 Jean 3. Qui nous dit la même chose. 1 Jean 3 à partir du verset 1er qui attire notre regard, on nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Donc on voit bien notre bien-aimé Jean, qui a écrit cet épître-là, c'est quelqu'un qui était, la Bible déclare, hein, qui était constamment avec Jésus. Souvent, il avait la tête posée sur la poitrine de Jésus. Et il comprenait bien Jésus, il comprenait bien sa doctrine. Et il nous rappelle ici, il nous dit, mais voyez, c'est ce que dit le texte, hein? Il dit, voyez, ouvrez vos yeux. Comment Dieu a manifesté cet amour pour vous? C'est ce que je nous dis, bien-aimés, ce matin. Vois l'amour que Dieu a manifesté, il a témoigné pour toi, en t'appelant son enfant, son fils et sa fille. Tu peux voir peut-être que dans ta famille, tu es peut-être le seul ou la seule converti. Peut-être vous êtes deux, juste deux, dans une famille. Mais le bien-aimé te dit, mais vois, regarde, ouvre les yeux et vois l'amour que le Père a témoigné pour toi. Il ne t'a pas juste sauvé, hein. Il a fait de toi son enfant. C'est-à-dire que sa main est sur toi maintenant. Personne ne peut te ravir, Jean dit. Personne ne peut te ravir. Ce que les autres vont faire, c'est qu'ils vont gesticuler. Dieu va permettre peut-être qu'une pierre t'atteigne, juste une pierre. Il va permettre ça. Mais n'oublie pas que la promesse que le Seigneur a faite à Pierre lorsqu'il allait à la croix, il a dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Et qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai prié le Père pour que votre foi ne défaille point. Donc, la foi que Dieu a mise en toi ne défaillera point. Même s'il peut arriver des moments où tu seras un peu en difficulté, mais celui qui t'a fait entrer dans sa maison, qui t'a fixé dans sa maison, ne va pas défaillir en quelque point que ce soit. Il veillera sur toi jusqu'au bout parce qu'il t'a sorti, Romains 8 et 30 nous dit, hein, c'est pour la gloire de son nom. Parce que si tu sors, comment il va te glorifier? Lui aussi, il a intérêt à ce que tu tiennes jusqu'au bout pour que, qu'il soit glorifié. Et Dieu le fera par sa fidélité et sa miséricorde. Donc, première chose, la reconnaissance. Et la deuxième chose, mais cela va nous parler, on va lire dans Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, verset 29. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de mon Père. Ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de mon Père. Verset 30. Et même vos cheveux sont comptés. Est-ce que c'est juste ça? Non, j'ai enlevé un autre terme, un terme exprès. Hein. On a dit, vos cheveux sont tous comptés. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Et même, c'est en termes clairs, hein. Dieu connaît le nombre de cheveux. On dit que sur la tête, il y a à peu près 100 000, 120 000 à 200 000 cheveux. Hein. Mais Dieu connaît le nombre exact de cheveux que tu as sur la tête. Tout ça pour dire quoi? Il dit qu'il maîtrise même les détails de ta vie. Les détails. Les détails. Même un objet que tu as quelque part, que tu n'utilises plus, eh bien, Dieu connaît ça. Donc, c'est lui qui permettra que ça disparaisse ou bien que ça reste là. Donc, c'est les détails, en fait. C'est Dieu qui va permettre. Et donc, si tu te souviens de ce verset, bien-aimé, tu vas réaliser et tu vas t'élever spirituellement et réaliser que je suis dans la maison. J'appartiens à celui à qui tout appartient. Même s'il m'arrive de perdre peut-être une montre ou bien quelque chose de ce... Voilà. Je sais que la source est inépuisable. La source est inépuisable. Là, nous parlons des choses liées à la terre, mais nous parlons aussi des choses liées au côté spirituel, bien-aimé. Les ressources sont toujours disponibles. Et Dieu, le Seigneur Jésus a dit que mais celui qui croit, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Il a bien parlé de source. Nous savons que la source, mais vraiment, c'est voilà, ça vient, ça ne finit pas en fait. Ce n'est pas un lac, ce n'est pas juste une citerne. Non, c'est quelque chose qui sort en permanence. Et lorsque nous sommes branchés à Dieu, nous devenons cette source-là inépuisable. Et que nos cœurs ne se troublent point, bien-aimés. Que nos cœurs ne se troublent point. Jésus-Christ a dit, lorsqu'il allait à la croix, il a dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Mais pourquoi il a dit ça, bien-aimé? Il a commencé par dire, mais croyez en Dieu. C'est-à-dire que mais c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui maîtrise toutes choses. C'est lui qui peut tout changer en un instant. Tout est entre ses mains. Il a d'abord commencé par son Père, croyez en Dieu. Mais il a dit aussi, croyez en moi. Mais pourquoi il a dit en lui aussi? Parce que c'est lui qui est le seul chemin qui permet d'accéder à cette ressource-là. C'est le seul. C'est le seul qui nous permet, qui établit la jonction entre le Père et nous. Nous le savons, bien-aimés. Que votre cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Tu fais partie de la maison de Dieu. Les anges, les serviteurs de Dieu, sont à ton service aussi. Que ton cœur ne se trouble pas, bien-aimés. Ne sois pas influencé par les difficultés du moment. Les difficultés du moment ne finiront jamais. Nous le savons tous, bien-aimés. Tant que nous restons sur cette terre, les difficultés vont demeurer. Mais réalise ce que Dieu t'a témoigné. Nous avons lu dans 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père vous a témoigné en faisant de vous ses enfants à lui. Il a commencé par Israël au départ. Il dit, Israël est mon premier-né. Et nous sommes venus après Israël. Nous faisons partie de cette famille-là. Mais Dieu sera toujours avec toi. Il veillera sur toi. Il va t'accompagner encore durant ton séjour terrestre. Mais c'est pour que plus tard, tu entres dans cette gloire-là. Et que le Seigneur soit béni. Nous lisons un dernier texte. Il y a tellement de choses à dire. Lisons dans Hébreux chapitre 11. Verset 8. Où nous parlons d'Abraham, notre aîné. Hein. Nous lisons Hébreux 11, verset 8. On nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Bon, avant de continuer, on peut commenter cette partie. Hein. On nous dit... C'est par la foi, je relis, on dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Donc la terre promise dans le départ, hein, lieu physique. Donc bien-aimé, Dieu t'a appelé. Et là, il est en train de te faire suivre un chemin. Tu ne sais pas où il mène. Pour l'instant sur la terre, hein, je le dis bien, nous connaissons tous la finalité de notre chemin. C'est la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Mais là, par rapport au souci de la vie, le chemin sur la terre, tu ne sais pas où le Seigneur t'amène. Mais Abraham aussi a fait la même chose. Il a obéi. Il a été errant. Il habitait sous des tentes. Il a été errant. Il est parti. Donc toi, moi, bien-aimé, obéissons à notre Dieu. Disons, Seigneur, ce chemin-là que je suis en train d'emprunter, je ne sais pas où cela me mène, je ne sais pas. Mais je te fais confiance. Je sais que tu es mon Père. Tu ne vas pas m'entraîner dans un précipice, dans un ravin. Non, je te fais confiance. Et c'est surtout la confiance en Dieu, bien-aimé. Et la suite, on nous dit, au verset 9, on nous dit, c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Ce texte ici, cette partie, on voit bien que ce n'est plus question de la terre promise. C'est maintenant, il est question de ce royaume céleste. Donc il a commencé par l'héritage terrestre, mais lui, ce n'est pas ce qu'il a attendu. Il a attendu l'héritage divin céleste. Nous aussi, bien-aimés, ne nous attachons pas à l'héritage terrestre. C'est rien tout ça. Ayons le regard fixé vers cet héritage qui nous attend, cet héritage divin, et que nous allons posséder pour l'éternité. Amen. Ce que nous possédons sur la terre, nous avons perdu beaucoup de choses. Hein. Il y a des gens qui ont eu des maisons, qui ont perdu. Moi, je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, on avait des aînés en Afrique, lorsque notre père est décédé. Ben, l'aîné, il a vendu la villa de notre père, sans nous, même nous en parler. On n'habitait pas dans cette maison-là. Il l'a vendu. Donc là, aujourd'hui, mais est-ce que je ne continue pas à vivre et à manger? Je continue à vivre et à manger, bien-aimé. Donc, c'est des choses qu'on peut perdre à tout moment. Ne nous attachons pas à ces choses-là. Réalisons l'héritage que notre Père nous a réservé. C'est le meilleur héritage qui soit. Attachons-nous à ce que le Père nous a déjà offert avant même notre entrée dans ce monde-là. Que le Seigneur soit béni. Que nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce de réaliser la plénitude de l'adoption, bien-aimée. Même si la santé nous manque sur la terre, même si les biens nous manquent sur la terre, même si la famille nous manque sur la terre, même si les amis nous manquent sur la terre, ce n'est rien. Il y a un chant qui dit « Ma patrie est dans les cieux ». Nous attendons cette patrie-là et nous commençons déjà à vivre les bienfaits du royaume de Dieu sur la terre. Ah, je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur notre Dieu nous a accordé des prémices en nous soutenant dans les moments de difficulté, en nous renouvelant, en nous encourageant, en nous bénissant même. Prions pour que le Seigneur nous rappelle tout cela et que nos cœurs ne se troublent point, que nous réalisions que fils de Dieu, nous sommes devenus et fils de Dieu, nous le serons toujours jusque dans l'éternité. Amen. Éternel Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour tes bontés. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Notre bien-aimé Jean nous a dit, voyez quel amour le Père vous a témoigné, qu'il nous appelle, il nous appelle ses enfants. Tu nous appelles tes enfants, Seigneur. Que c'est beau d'entendre ça de la part, de la bouche de celui qui a créé la terre et les cieux. C'est beau d'entendre cela. Encore merci. Donne-nous de ne pas oublier cela et que nos cœurs ne se troublent point face à l'adversité qui nous entoure. Et donne gloire à ton nom. Je bénis mes frères, je bénis mes sœurs et que ta grâce soit sur chacun d'entre nous afin que la gloire te revienne toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.